lisons dans les Écritures, dans le texte du jour, Galates au chapitre 3, versets 26 à 29. Car tous vous êtes, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier. Ce matin, nous allons rentrer dans la riche symbolique de ce texte à travers la notion de vêtements. Oui, nous allons parler de vêtements, et ce n'est pas parce que nous sommes à 25 minutes de Paris, l'une des capitales mondiales de la mode, ce qui nous donnerait droit de nous intéresser aux dernières tendances en matière de style vestimentaire et d'élégance. Nous allons parler de vêtements, et c'est un sujet assez culturel. Ça touche une réalité assez intime de l'humain. Nous n'avons pas tous la même manière de nous habiller, nous n'avons pas tous les mêmes codes vestimentaires. Et pourtant, ce matin, avant de nous déplacer jusqu'ici, nous nous sommes tous posés, consciemment ou non, la question « Qu'est-ce que je vais porter pour venir dans ce lieu de culte ?» Et si chacun et chacune y a répondu à sa manière, je suis presque certain qu'aucun d'entre nous ne s'est dit « Aujourd'hui, je vais m'habiller du Christ » ou « Aujourd'hui, je vais porter le Christ ». Et c'est pour ça qu'on va parler des vêtements. À cause de cette affirmation qu'on vient de lire dans l'Épître aux Galates, « Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Qu'est-ce que ça signifie, revêtir Christ? Et peut-être quel est l'intérêt de penser le Christ à partir de la notion ou de l'image de vêtements? Et pour tenter de comprendre cette affirmation un petit peu bizarre, tournons-nous vers une parabole que nous lisons souvent dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, dans laquelle le rôle du vêtement est souvent est décisif pour comprendre le sens, mais souvent oublié. Si vous vous rappelez bien, dans la parabole du fils prodigue, ce fils qui avait demandé sa part d'héritage avant l'heure et qui est parti avec tous ses biens dans des contrées un peu lointaines de sa maison, dépense tout son argent. Le texte souligne son état de dépossession en disant qu'il a tout perdu jusqu'à sa dignité parce qu'il était prêt à manger la nourriture des cochons. Donc il s'est dit « Je vais revenir voir mon père parce que je serai quand même mieux traité qu'un animal. » Il est accueilli par ce père avec enthousiasme et le père dit « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. » Ce qui surprend dans cette scène, c'est la réaction immédiate du père. Avant même de réfléchir, son premier réflexe est d'habiller son fils. Le vêtement devient le signe visible de son accueil inconditionnel. Le vêtement est ici une manière de rendre son hospitalité visible, tangible, et il ne demande aucune justification. De plus, le père n'offre pas n'importe quel vêtement. Il offre la plus belle robe. On peut dire que par ce geste, il restaure l'identité de son fils, lui fait part de sa grâce et lui montre la valeur qu'il conserve à ses yeux. En quelque sorte, la robe devient la mesure de l'amour du père pour son fils. Est-ce qu'on peut voir entre cette parabole et l'affirmation étrange de Paul « revêtir le Christ » en parallèle? On pourrait tenter dans la mesure où le texte biblique identifie souvent Dieu à un père. Et on peut tenter aussi parce que Paul lui-même établit une relation filiale entre nous et Dieu au verset 26 « Car tous vous êtes, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. » Alors si Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, on peut penser, comme dans la parabole, que son premier geste envers nous est au... est aussi de nous revêtir et de nous revêtir de sa grâce. Dieu nous couvre peut-être aussi de sa plus belle robe. Et il le fait aussi peut-être pour nous montrer la valeur que nous avons à ses yeux. En nous invitant à revêtir Christ, on peut dire que Dieu nous estime à la valeur de son propre Fils. Et c'est dans cette dynamique de grâce qui est offerte à tous ceux qui sont en Christ que Paul poursuit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Autrement dit, en portant l'habit Christ ou l'habit christique, nous ne sommes plus enfermés dans des identités passées, ni même dans les appartenances qui nous semblent les plus fondatrices. Mais si on s'arrête sur ce verset, il faut dire que ça démolit pas mal. C'est une affirmation assez scandaleuse de dire qu'il n'y a ni juif ni grec. On a dans notre vie des distinctions qu'on tient pour évidentes ou pour acquises. Nous avons souvent tendance à définir les autres en fonction des catégories toutes faites. Et en fait, nous apprenons très tôt à repérer les différences, à les lire comme des écarts, et parfois même à les faire jouer comme des critères de valeur. Or, Paul affirme qu'en Jésus-Christ, les appartenances sociales, culturelles, religieuses ou genrées perdent leur pouvoir normatif. Les distinctions que l'on tenait pour évidentes, presque naturelles entre guillemets, celles qui semblaient organiser la société et structurer nos identités, sont relativisées pour tous ceux qui ont la foi en Christ. Revêtus du Christ, nous portons une autre nomination. Ce qui auparavant nous hiérarchisait ou nous séparait, homme libre d'un côté, esclave de l'autre, homme ici, femme là-bas, ces critères ne peuvent plus être les critères que nous posons les uns sur les autres. Désormais, ce qui fonde l'identité croyante, c'est l'appartenance à celui que nous avons revêtu. C'est peut-être cela l'unité en Christ que Paul affirme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Donc c'est peut-être ça la bonne nouvelle. Dieu nous libère de nos appartenances qui peuvent nous cliver pour nous offrir une appartenance nouvelle. Une appartenance qui ne se fonde ni sur le sang, ni sur le mérite, ni sur la conformité, mais sur sa grâce. Revêtus de Christ, nous sommes tous revêtus de la même grâce. Et il faut bien reconnaître, cette parole peut sembler difficile à entendre. Elle dérange parce que nous avons appris justement à nous nourrir des différences et à nous situer dans les hiérarchies. Nous avons grandi aussi dans des logiques de compétition et de valorisation de soi par opposition à l'autre. Et aujourd'hui, peut-être aussi, tout semble encourager une posture de méfiance mutuelle et cette manière de percevoir l'autre d'abord comme une menace plutôt qu'à partir de ce qui pourrait nous rapprocher. Il faut le dire, le climat ambiant alimente ces divisions. À l'heure où les nationalismes reviennent en force, où les replis identitaires se multiplient, où les discours politiques désignent des ennemis, des menaces, des frontières, comment entendre cette parole de Paul ? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Quand on dresse le français contre l'étranger, le local contre le migrant, quand la rhétorique publique oppose les bons citoyens aux éléments perturbateurs, comment entendre cette parole ? Et en plus, affirmer cela, c'est aussi un scandale à l'échelle du monde. La guerre fait rage dans plein d'endroits du monde et les logiques d'affrontement et d'escalade dominent les discours internationaux. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, par exemple, qu'il n'y a ni Ukrainien ni Russe en Christ ? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, qu'il n'y a ni Israélien ni Palestinien ? Parce que c'est cela que ça veut dire, il n'y a plus ni Juif ni Grec. Cette parole va à l'encontre de nos affects et de notre logique de camp, et peut-être aussi à l'encontre de notre besoin de désigner un coupable et de nous en distinguer. Et peut-être dire « car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ » est peut-être une manière d'ouvrir l'horizon d'un autre monde, un monde dans lequel l'identité ne se construit plus par opposition, mais par filiation, un monde où on se reconnaît issu et tissu comme un vêtement d'un même amour, d'une même parole créatrice. Un monde dans lequel le vêtement n'est plus ce qui distingue, ce qui hiérarchise, mais un monde dans lequel le vêtement est ce qui unit, ce qui nous rassemble autour d'une même grâce. Et c'est en fait là le paradoxe du vêtement christique, revêtir le Christ. Habituellement, le vêtement est un marqueur social, il exprime une appartenance et sert à dire « voici ce que je suis et voici pourquoi je ne suis pas toi ». Mais revêtir le Christ, c'est se voir enveloppé par une réalité qui efface ces lignes de séparation. Et peut-être, quelque part, ça fait un petit peu communiste de dire qu'on porte tous la même chose, qu'on porte tous la même robe christique. Et c'est peut-être aussi un aspect qui nous scandalise. Dieu accorde à toutes et à tous la même valeur. Dieu offre à tout le monde le même habit christique, indépendamment de notre histoire, de notre combat. Et on peut légitimement émettre une réserve à ce discours. On peut poser une question essentielle. Si Dieu offre à tous le même habit christique, que devient ce qui me distingue? Si mes appartenances sociales, culturelles ou genrées ne me définissent plus devant Dieu et devant les autres qui sont en Dieu, est-ce que cela signifie qu'elles n'ont plus d'importance? Ma culture, mes luttes, mes marques singulières, est-ce qu'elles sont effacées au nom de cette unité proclamée en Christ? Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et c'est en ce sens qu'il est important de mentionner que l'unité en Christ n'est pas une négation de la diversité. Au fond, on garde tous nos particularités. On reste juif, on reste grec. Et le récit de la Pentecôte nous parle bien d'un Dieu qui nous rejoint dans notre particularité, puisque l'Esprit de Dieu parle à chacun dans sa propre langue. Chacun reçoit dans ce qu'il est, avec son corps, sa culture, son accent, et l'Esprit de Dieu rejoint chacun dans son identité. Donc si on pense le Christ comme habit, il faudrait dire que ce serait un vêtement qui épouse la forme unique du corps de celle qu'il couvre ou de celui qu'il couvre. Donc cela ne signifie pas qu'on cesse d'être juif ou qu'on cesse d'être femme ou qu'on cesse d'être esclave ou homme libre. Mais ces identités ne sont plus des murs de séparation et ces identités ne sont plus des structures de domination. Voilà peut-être ce que signifie revêtir le Christ. Apprendre à vivre ensemble sans que nos différences ne deviennent des frontières. Peut-être ça veut dire accueillir l'autre, non pour ce qu'il me ressemble, mais pour ce qu'il est déjà, c'est-à-dire aimer des dieux. Et peut-être que ces paroles de Paul nous déstabilisent parce qu'elles parlent d'un Dieu qui ne cesse de venir défaire nos certitudes, renverser nos logiques, pour nous vêtir d'une identité que nous n'avons pas à conquérir. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen.